Monsieur Windisch, un tableau se dessine en vue des élections avec plusieurs thèmes dont certains sont tabous, mais commencent à sortir, dont celui des vagues migratoires et des nombreux problèmes liés à celles-ci. Et puis, comme on est sorti du bois sur ce sujet en particulier, le sujet des dits migrants, on assiste alors, selon vous, à un certain enfumage des médias, mais aussi des politiques.
Oui, écoutez, vous utilisez le bon terme. On est vraiment face à une sorte d'enfumage politique et médiatique généralisé dans la discussion politique actuelle, bien sûr en lien avec les élections fédérales, mais aussi par rapport à ces vagues de migrants, comme on les appelle maintenant, alors qu'on sait que ce sont d'abord des clandestins et une foule très composite, et nullement simplement des gens, des réfugiés de la guerre. Alors, en ce qui concerne d'abord les médias, plus généralement, si vous voulez, récemment, des chercheurs, n'est-ce pas, avaient fait une analyse, comme ils le font toujours, sur les raisons qui ont amené les électeurs à voter de telle ou telle manière. Et il y a eu cette fameuse votation sur la révision de la loi sur la radio et la télévision, qui a donc été acceptée d'extrême justesse. Refus de 49,9%. Et des chercheurs s'y mettent. On se souvient que les chercheurs avaient largement dépassé leur rôle de chercheurs, étaient devenus militants parce qu'ils reçoivent des millions pour la recherche sur les médias, de l'Ofcom, de l'ASSR, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il faut vraiment commencer à lire, à décoder, si on ne veut pas se faire, en effet, enfumer, si on ne veut pas se laisser bourrer le mou, excusez-moi, il faut devenir parfois un petit peu vulgaire. Tellement on nous raconte de bobards. Il y aurait en effet de quoi distribuer des bobards de la désinformation de manière répétée ces derniers temps. Alors, on nous dit, dans l'analyse, dans cette analyse, n'est-ce pas, des chercheurs, que le grand nombre de noms, vous voyez la formule, c'était 49,9% qui a refusé cette votation, ces grands nombres de noms ne sauraient être réduits à une insatisfaction face à l'ASSR. Au contraire, 73% des Suisses sont satisfaits de l'ASSR. Évidemment, ça dépend comment on pose les questions. Si on avait demandé, par exemple, s'ils trouvaient que les journalistes étaient trop bien pensants, qu'il y avait trop de journalistes de gauche, que l'information était orientée, que si le salaire de M. Devecq était trop élevé, qu'il y a de quoi devenir millionnaire en 2 ans, quelque chose comme ça, les réponses auraient été tout à fait différentes. On nous prépare, si vous voulez, simplement au débat sur le service public que tout le monde annonce, mais chacun veut faire en sorte que on ne change pas grand-chose, tout en disant qu'on va changer beaucoup. Madame Leuthard est venue au secours tout récemment en disant que les radios et les TV privées devaient recevoir plus d'argent. Voilà un argument. Vous devinez que ça va être des clopinettes. Ce qu'il faut, c'est véritablement, enfin, une vraie pluralité médiatique en Suisse, comme l'est notre système politique. Ce monopole devient insupportable, surtout lorsqu'il est orienté idéologiquement et politiquement, et bien sûr, très largement à gauche. Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Et on va le démontrer jour après jour. Je puis vous l'assurer. Alors, vous voyez, par exemple, on peut se demander si les journalistes ne deviennent pas de plus en plus des militants politiques. Alors, dans le journal, de nouveau, le plus diffusé, le du dimanche, le matin dimanche, la rédactrice en chef, Ariane Dayer, se lâche sur le problème de l'asile et dit que c'est scandaleux de faire des catégories, par exemple les bons et les mauvais réfugiés. Et que elle nous dit quand même des choses assez incroyables. Ça n'a plus rien à voir avec une analyse journalistique. Laissons la rhétorique du bon et du mauvais étranger aux formations d'extrême droite. Elles en ont le copyright. Voyez, d'autant que, écoutez bien, d'autant que les mauvais réfugiés en question, dans quelques années, nous en aurons besoin. Les mauvais réfugiés en question, elles n'y croient pas. Mais ici, il faut rappeler que dans ces mouvements de masse, de clandestins, il y a aussi des criminels, des djihadistes, des terroristes, Vous me direz, c'est une obsession, mais pas du tout. Figurez-vous que j'ai retrouvé un article sur la situation qui était celle de l'Albanie en 1990. À cette époque, même attitude, il ne fallait surtout rien dire de qui, tout à coup, les gens ne se souviennent plus, mais Ramiz Alia, qui était le dictateur stalinien totalitaire en Albanie, le dernier survivant, bien après que le mur soit tombé, eh bien, il a fait le coup, tout simplement, que des centaines et des centaines d'Albanais sont arrivés en France et en Italie, personne n'a rien dit. On s'est rendu compte que Ramiz Alia avait tout simplement ouvert les prisons, nous avait envoyé des criminels et avait fait fusiller les vrais opposants. Fidel Castro, c'est pas, on parle beaucoup de Cuba en ce moment, a fait le même coup en 1980. Donc cela pour dire qu'il y a de tout dans ces vagues de réfugiés. Regardez, hier, aujourd'hui même, en Hongrie, où les milliers de clandestins sont arrivés, en masse, on met les enfants au premier rang pour créer l'émotion, et on entend des vagues de cris Allah Akbar. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que ce sont des musulmans à qui on a confié une fonction bien précise. La Suisse a toujours accepté des vrais réfugiés. Alors oui, il faut distinguer et catégoriser. Cher, elle est même rédactrice en chef. Je trouve incroyable qu'on puisse encore écrire ce genre de choses. Est-ce qu'on va continuer à acheter ce journal, même si le dimanche, on n'en a pas d'autre? Voilà une drôle de situation. Là, ce n'est qu'un cas. Je voudrais en prendre un autre. Ce matin même, dans la rubrique signature de notre radio, Pierre en chauffant, ce titre, sa rubrique, son intervention, nous dit qu'un conseiller fédéral n'a pas forcément besoin d'être membre d'un parti. Tiens, c'est extraordinaire. Vous devinez que là derrière, il y a le militant politique. On le niera férocement. Eh bien, en gros, on veut montrer que Evelyn Wittmer-Schumpf, même si elle ne représente rien, mérite d'être réélue. Et on a convoqué qui à la radio? Samuel Schmid, qui était en conflit avec l'UDC parce qu'il n'était, comme disaient les dirigeants, qu'un demi-conseiller fédéral, vient nous dire en gros la même chose, qu'il faut plus qu'un poids électoral pour assumer des responsabilités gouvernementales. Mais alors, n'importe qui peut devenir conseiller fédéral. Pourquoi ne pas mettre un entrepreneur particulièrement dynamique qui a créé beaucoup d'emplois, qu'il sait de quoi il parle, à la place de gens qui n'ont qu'une formation politique, en réalité idéologique, et qu'ils veulent faire plier la réalité suisse à leurs idées, avec toutes les perspectives sombres que l'on connaît. En réalité, on va observer de très près une campagne sous-jacente, sournoise, implicite, qui n'a qu'un objectif, c'est d'éviter qu'un deuxième conseiller fédéral UDC n'arrive au gouvernement et qu'on ait une majorité de centre-droit plutôt que de centre-gauche. On voit qu'il y a, sans être une vision complotiste du tout, on voit qu'il y a des attitudes communes au niveau des médias et en politique pour discréditer d'une manière ou d'une autre les dirigeants de l'UDC. Pour en donner une image aussi négative que possible, jamais on ne fera ça avec des politiciens bourgeois ou socialistes. Donc, ou bien nous avons réellement une formule magique, ou à peu près, où toutes les forces politiques sont représentées, ou alors cherchons des gens particulièrement capables, mais pas des gens qui ont détruit une partie du système bancaire et fiscal suisse extrêmement précieux qui était une référence. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'étrange que de tous côtés, du côté du journal Le Temps, il y a Yves Petignat qui régulièrement s'en prend à l'UDC, mais avec des termes, ils ont même fait appel à d'anciens journalistes pour montrer combien l'UDC était nul. On utilise des termes très dégradants. Et sommes-nous encore en démocratie quand l'UDC à Genève, pas plus tard que hier, doit avoir une protection de la police massive pour une simple réunion politique, parce que des prétendus antifascistes, et comme on l'a dit, les antifascistes de hier, n'est-ce pas, selon une formule bien connue, sont les fascistes de demain. En réalité, s'ils avaient pu imaginer un instant, ils auraient agresser, attaquer, faire de la destruction, s'attaquer aux personnes. Ça, c'est du fascisme. Alors, imaginez un instant, si un parti complètement démocratique commence à être victime, il l'a été à plusieurs reprises, eh bien voilà toute une série d'événements qui nous montrent qu'on devrait s'interroger sur ce qu'est réellement la démocratie et ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on va la laisser en main de certains qui en sont tout sauf démocratiques? Il y a bien sûr aussi la Commission fédérale contre le racisme qui réintervient, bien sûr, en s'élevant de manière moralisante contre la manière dont on présente cette invasion de clandestins, en disant qu'il faut cesser avec les appels à la haine et au rejet, qu'il faut cesser les stigmatisations. Jamais, jamais on ne parle des djihadistes, du terrorisme, de ce que les musulmans font subir aux chrétiens. Maintenant, on voit aux États-Unis un fait divers, un noir qui abat un shérif uniquement parce qu'il est blanc. Alors, commission contre le racisme ou commission contre tous les racismes ou pas de commission du tout? Oui, nous devons entrer dans une phase de réciprocité généralisée. On ne peut plus accepter la vraie stigmatisation, le vrai racisme envers les blancs, envers, si vous voulez, les chrétiens. Cette défense inconditionnelle et unilatérale de la part de la Commission fédérale du racisme et d'accusations généralisées ne peut plus être acceptée. On s'étonne aussi, à la Radio Suisse Romande, que les commentaires sur les sites à propos des clandestins deviennent de plus en plus durs, qu'on doit fermer la discussion, et on dit, ben voilà du racisme. En fait, on devrait s'interroger des raisons pour lesquelles les propos sont si durs. C'est à cause, justement, de la composition, pour le moins variée, de cette invasion. Et si on véritablement faisait, comme on dit, le tri, encore une fois, il y a des gens qui méritent protection, mais il y a une grande partie qui seront là, qui sont déjà là, et dont on aura les mêmes surprises qu'avec les criminels que nous avait envoyés, par exemple, Ramiz Alia en 1990, et qui ont créé des filières partout de toutes sortes, dont on parle de temps en temps aujourd'hui. Il est donc urgent d'analyser et de dénoncer cet enfumage politique et médiatique général, et qui va durer encore des mois. J'espère que les visiteurs et les lecteurs de notre site nous aideront à le faire. Merci d'avance.
Merci Monsieur Windisch pour cette mise au point et ces précieux rappels.